Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 24 avril à Chicago, dans l'Illinois, dans la All State Arena. C'est le feu, hein. Le public, grosse ambiance. On connaît, les Chicagoans ont cette réputation d'être un public de connaisseurs. On va voir hein, si c'est vraiment des connaisseurs. Est-ce qu'ils vont mettre l'ambiance ce soir? D'ailleurs, au passage, on a eu des invités surprises. Mais un invité qui n'est pas surprise, c'est Giscard. Il est là pour m'accompagner pour cette analyse. Et je vous le dis tout de suite, on n'est pas d'accord. Salut Giscard.
On n'est pas d'accord, ça va saigner. Salut Yerev, salut tout le monde. Comment ça va?
Bah ça va, hein. Je parlais d'invité surprise. Tu savais que CM Punk était de passage et on l'a vu backstage.
J'ai appris ça après en naviguant un petit peu, comme je le fais souvent, post-visionnage de show sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu'il s'était perdu sur le parking. Je ne sais pas ce qu'il faisait là.
Ouais. Il a serré la porte à Triple H, puis il a demandé est-ce que je peux rester. Il a dit attends, pour moi, il n'y a pas de problème, mais je vais demander au big guy. Et puis 10 minutes plus tard, il s'est fait sortir par la sécurité. Donc, vite. Le big guy,
voilà.
Pas trop voulu.
Manifestement.
Bon, nous, par contre, on avait le droit de rester, Giscard.
Oui.
On avait le droit de rester, donc on a pu regarder. Et surtout, on a pu voir que Cody Rhodes ouvrait le show à Chicago. Il y a un petit passif hein, entre Cody Rhodes et la ville du vent, la ville venteuse de l'Illinois. De quoi on veut parler? Est-ce qu'on pourrait parler de la draft? Ouais, bof. Hein. Je ne sais pas si ça t'intéresse, toi,
enfin,
trop la draft.
Ouais.
Pas trop. On s'en fout. Peut-être qu'on pourrait quand même parler de Brock Lesnar, peut-être plutôt. Hein, ça m'a l'air d'être les grosses affaires du jour pour Cody Rhodes dans sa grande mission là, de vaincre, d'éventrer la bête à Backlash à Puerto Rico. Brock Lesnar, hein, athlète combattant le plus décoré dans l'histoire du divertissement sportif et du combat legit. D'ailleurs, c'est quand même, on se fout un petit peu de nous, là, Lesnar, soi-disant le plus grand combattant de l'histoire, mais il attaque dans le dos, quand même.
Hein, oui, pas, hein, très, hein, pas trop sérieux, tout ça.
Non. D'ailleurs, Cody veut nous montrer quelque chose. Cody commence à se dessaper. Je ne sais pas si tu avais payé pour voir un spectacle de Chippendale, toi, Giscard.
Non, mais j'ai entendu les petits cris d'émoi du public féminin de Chicago et ça faisait son petit effet. Moi, j'étais un peu émoustillé, c'est vrai.
Moi, je peux te dire qu'il n'y avait pas qu'un public féminin. Tout le monde s'est battu pour attraper la chemise que Cody a lentement retiré, quand même.
Alors, hein.
Bouton après bouton. Ça... Bon,
il l'a dit d'ailleurs, il rigolait. Il dit c'est un petit peu long à déboutonner.
Il reconnaît le passé. Ça le rend humain, ce Cody. Ça le rend humain. C'est l'objectif hein, des 360.
Ouais,
oui.
Il y a un an pour. Il galère à enlever ses boutons. Et c'est pas facile d'enlever les boutons de la manche, là, comme ça. Et tout.
Bah, oui, voilà. Dans les films, ils se dessapent en 2-2 là, avant la scène chaude des torrides.
C'est la vraie vie, ça.
Du film, la vraie vie, c'est que tu galères et que tu te galères, tu te cognes, il te reste une chaussette. C'est pas ouf, tu fais comme tu peux. Dans la vie, on fait comme on peut. À la télé, c'est chronométré, donc il faut y aller. Alors, il nous montre sa cicatrice. La cicatrice est petite, mais la caméra zoom et ouais, on la voit, hein. C'est boursouflé quand même. Hein. C'est boursouflé.
Ah ouais, c'est mal fait. Hein. Au final, on se rend compte que moi, je pensais qu'il allait se plaindre de son chirurgien, tu vois. Je
me suis dit, ouais, moi aussi.
Je dis non, là franchement c'est pas sérieux. T'as une petite cicatrice comme ça, que ça laisse une telle trace.
Il faut mettre de la crème, à mon avis, mais pas de la crème. Il faut masser.
Normalement il faut mettre de la crème. Oui.
Voilà, parce qu'après tu regrettes, après t'es tout, tu ressembles plus à rien, t'es balafré de partout.
C'est foutu, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein.
Donc voilà, il nous rappelle voilà, que c'était à Elinocel, hein, à Chicago, qu'il avait battu Seth Rollins. Donc voilà, on est revenu à cette étape. Grâce au public qui l'a soutenu, donc merci Chicago, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, vous et moi, c'est pour la vie, for life.
For life. Et...
Sauf que la vie nous propose des surprises, et la surprise c'est Finn Balor qui débarque. Et ouais, il vient pour... Il dit je vais pas foutre le bordel, hein, mais je te rappelle qu'on a tous des cicatrices, hein, donc tu fais ton malin avec ta grosse cicatrice boursouflée, mais moi j'ai 14 agrafes sur le crâne, hein, donc j'ai pas de problème. C'est vrai que là, on a... voilà, c'est ça la vie, hein, la vie nous laisse des cicatrices, la vie nous laisse des marques, des stigmates, jusqu'à là.
Une belle tranche d'humanité cette promo quand même.
Ah oui, là on est vraiment dans l'humain. L'humain dans la chair et tout ce que la vie peut parfois nous faire subir. Dit écoute, t'as été arnaqué, t'avais Roman Reigns, tu l'avais entre tes mains, Voilà, puis à la fin, tu t'es retrouvé tout seul avec ton poulet. C'était pas joli, joli, hein, cette image qui perturbe encore certains de nos chroniqueurs ici dans les studios.
Ça a marqué les esprits de ceux qui voulaient bien être marqués.
Il dit, bah voilà, le problème, c'est que tu t'es fait avoir parce que personne n'a assuré tes arrières. C'est vrai, ça, jusqu'à lui, il était tout seul.
C'est pas faux, ça, c'est pas faux.
Hey, et on l'a dit, il était convaincu. Voilà. Mais ouais. Tu pensais que. Et puis après, tu t'es fait avoir. Tu as vu Brock Lesnar qui pensait que ça allait être ton poteau, mais tu t'es encore fait avoir. Bref, un peu naïf, hein, le Cody, dans l'histoire. Un petit peu naïf. Oui. Et du coup, bah, finalement, ce que propose Finn Balor, c'est bah, ses services, d'être à ses côtés, de rejoindre le Judgment Day. Cody dit bah, voilà, écoute, je te respecte, mais je pense pas être très intéressé par tes services. Malgré, c'est vrai, Judgment Day, c'est quand même une belle faction. On a Rhea Ripley, championne de SmackDown, Damien Priest qui passe la star, la plus grande star mondiale musicale à travers l'étape des commentateurs, Dominik qui a prouvé qu'il était meilleur que son père. Donc, fais pas d'erreur, on est là pour te protéger. Cody, ça m'intéresse pas, je dois refuser poliment, je ne rejoins pas le Judgment Day. Qu'en pense le public? You suck. Bah, voilà, le public n'a pas l'air d'être d'accord, c'était pas mal, toi. Il fait un petit côté, il fait un petit peu sur John Cena, et moi j'aime ça. Hein, pour moi, le Cody, il faut qu'il joue ce rôle, hein, un petit peu de petit con, là. Hein, qui joue
ça fait plaisir que tu l'aies remarqué.
Ah oui, ah, tu l'as remarqué toi aussi? Bah oui, toi tu remarques ce genre de choses. Il dit, bah, fais attention. Finn Balor commence à être plutôt menaçant. Hein, commence à être plutôt menaçant. Et Cody dit attends, tu pensais que j'allais pas pouvoir combattre ce soir parce que j'étais pas, il était pas medically clear hein, la dernière fois. Et ben hop, big news. En fait, je peux me battre ce soir. Donc je te propose un match. Et Finn Balor accepte. Donc on aura un match Finn Balor versus Cody Rhodes. Alors Cody Rhodes. Cody Cena.
Ouais, il y avait beaucoup de John Cena, j'ai trouvé dans cette promo. J'ai beaucoup aimé, moi, cette petite promo de Cody Rhodes et cette intro de Monday Night Raw. On est sur du classique, un petit segment micro, on rappelle les événements de Previously on Monday Night Raw, là, voilà, et puis on boucle le main event, enfin, en tout cas, ce qu'on pensait, moi, à ce moment-là, ce que je pensais, ce qui serait le main event de la soirée. Et bon, finalement, non, ça m'a d'ailleurs un petit peu questionné un petit peu plus tard dans le show, mais bon, ok, soit. En tout cas, voilà, c'est le segment classique, hein, on vient booker un match un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, cette promo de Cody Rhodes, ouais, très Cena-esque, hein, c'est très babyface, hein, c'est ultra babyface. Très très lisse, mais j'aime bien ce personnage là, voilà, qui est en train de d'asseoir à la WWE, de vraiment, ouais, c'est le héros des foules, le héros des femmes, le héros des enfants. Y a rien qui dépasse. Il est très très chiadé dans son discours, toujours bien brossé les sujets du bon côté. Et puis droit dans ses bottes. Hein, il a bon dos de rappeler que Brock Lesnar est l'athlète le plus décoré de l'histoire du combat et du sport entertainment. Alors c'est marrant, tu sens quand même. Hein, l'impact des éléments de langage et des répétitions des promos, parce que juste avant que Cody Rhodes fasse sa promo, t'avais Corey Graves qui avait exactement dit exactement la même chose, je crois, les deux phrases coup sur coup typiques sur Brock Lesnar, il les avait dit juste avant que Cody Rhodes les dise, donc tu sens que les mecs sont briefés quand même, hein, mais bon, bref, mais en tout cas voilà, et c'était amusant parce qu'il dit ça, et puis après il dit, bah, donc comment ça se fait que ce couard a besoin de m'attaquer par derrière, donc ça c'était plutôt bien vu, le petit coup de la cicatrice c'était pas trop mal, il a bien fait popper la foule de Chicago, le babyface courageux, qui valeureux et tout dans l'effort, prêt à tous les sacrifices. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué avec joie, parce qu'on aurait pu craindre un public un peu taquin à Chicago. Hein, c'est considéré comme un peu smart. Considéré comme quand même assez difficile comme public, et Cody Rhodes a été accueilli comme un héros absolu,
oui.
ce qui ne me surprend pas outre mesure, mais qui en effet peut-être surprend certaines personnes qui pensaient que voilà, c'était un loser terminé, que nenni, Cody Rhodes est plus over que jamais, donc voilà, ouais, il a bien mené sa barque, il a bien joué avec le public. cette petite passe d'arme avec Cody Rhodes était avec Cody Rhodes
avec Finn lui-même Balor,
avec lui-même, parce qu'au début c'est vrai que cette passe d'arme avec lui-même avec Finn Balor était très bien. D'ailleurs ouais, à souligner, moi il y a plusieurs trucs qui m'ont fait marrer dans le discours de Finn Balor, et notamment quand il a égrené les succès du Judgment Day, il avait rien à dire sur lui. J'ai trouvé que c'était assez surprenant parce qu'au final il parlait de sa faction, Rhea Ripley, Damian Priest, Dominic Mysterio, mais bon, lui par contre il s'est pas vendu.
C'est une personne très humble dans la vie.
Très humble, oui, voilà, tout simplement. Ouais. Et bon, il y a la petite pique sur le père de Cody Rhodes, comme
d'habitude. Oui, ça me fait marrer avec Dominique. À un moment, il fait sa liste, puis il dit et Dominique, et puis il laisse un gros blanc.
Il a surpassé son père légendaire, contrairement à toi.
oui, c'est ça. Et ça, par contre, c'était dommage parce qu'il a. Il y a un petit souci de timing sur cette réplique qui faisait mouche. Parce que le public à ce moment-là était on n'a pas trop entendu.
Bah non, parce que le public n'arrêtait pas de dire you suck, comme ça. Et du coup, après Cody Rhodes, c'était marrant. C'est là où tu vois qu'il maîtrisait quand même bien la foule, il avait bien le public, le pouls du public, il le sentait bien. Parce qu'à un moment, il dit, il reprend la parole et puis il dit excuse-moi, je suis désolé, Finn Balor, j'ai pas trop compris ce que t'as dit. Parce qu'en fait, il y avait le public qui disait des trucs et toi qui disais des trucs. Donc alors attends, si je résume bien, toi tu disais ça, ok. Et du coup, le public, Chicago, vous disiez quoi? Et puis alors là, you suck. Bon, c'était assez rigolo. Bon, bref, voilà, segment assez divertissant. Et en effet, voilà, ce côté ultra babyface, sourire bright, un peu taquin, un peu insolent, qui rappelle en effet beaucoup le John Cena taulier qui vient absorber un petit peu les critiques devant une foule bien chaude, qui vient absorber les critiques et puis qui joue avec. Et donc c'était bien manœuvré. J'ai bien aimé et tout ça me lançait bien, dans l'émission, ouais.
Ouais, un babyface qui coche toutes les cases et qui monte aussi ses petites blessures, voilà. Et comme tu l'as dit, qui assure de mettre bien en rang tout le monde, le public, dans la bonne direction pour le reste du show. Hein. C'est ça, tu l'as dit, hein, c'est à Chicago, les smart. Bon, ils se sont assagis à Chicago. Hein. Oh là là, c'est comme Philadelphie, tout le monde est devenu très sage.
C'est ça.
C'est les smart de 25 ans, maintenant ils en ont 40, voilà, c'est des papas, ils viennent avec leurs enfants.
c'est ça. Ouais.
Ils voient leurs enfants, ils ont les enfants à côté qui sont en train d'applaudir Cody Rhodes, ils vont pas chanter You Suck, toi. Tout le monde s'est assagi. Du coup, on va pouvoir bien en profiter. Et ça commence très très chaud, mon bon Giscard, puisque la Bloodline débarque. Hein. Jimmy Uso, oui. Jey Uso, Solo, et puis la LWO, ou alors la Legado del Fantasma, on ne sait pas trop. J'ai l'impression que c'est maintenant la LWO. Hein, parce que...
Ouais, c'est ça, ils ont un peu changé de nom, j'ai l'impression.
Ouais, Viva la Raza, en plus, dans leur theme song. Enfin, se débarrassera jamais de
l'héritage.
De l'héritage dédié, quoi. Enfin, le mec. C'est assez impressionnant, quand même. C'est assez impressionnant. Vraiment, le mec aura marqué de son empreinte toute une génération de catcheurs. Et c'est assez incroyable. Et du coup, on a une belle affiche hein, pour mettre l'ambiance directement avec la Bloodline, hein, toujours au top. Cette LWO version 2023 qui, pareil, a réussi à se trouver une petite place quand même, finalement, hein, pas facile, mais à se trouver une place dans cette picture qui est, je trouve, justement un bon... ce qui s'est passé la semaine dernière, il s'est passé plein de choses, on a un petit peu fait coulisser les rivalités et ça permet d'ouvrir des opportunités à des mid-carders là, qui en profitent. Et du coup, on a un gros combat qui, dans sa dernière séquence, voit un Phoenix Splash là, qui tombe sur Jimmy... Jay qui vient sauver son frangin, ça se retrouve à l'extérieur du ring avec Escobar qui vient se bouffer le poteau, Joaquin Wild là, qui intervient également, Sikoa qui lui fait un gros slam là, sur le rebord du ring, le running kick sur Jimmy qui se retrouve au sol, on prépare le coast to coast, mais Solo Sikoa qui place un énorme Samoan Spike en plein vol sur Cruz del Toro, le tag pour Jay, et le 1D pour le compte de 3. Voilà, 1, 2, 3, c'est plié. La Bloodline est vainqueur. Jay prend le micro. Ils sont champions, les meilleurs champions par équipe. Et voilà, ils ont eu une mauvaise soirée à WrestleMania. Ça arrive. Ça arrive, Giscard.
Ça arrive, on en a tous. Hein. Voilà. C'est vraiment le show de l'humanité quand même. C'est, on a tous ses faiblesses hein, ce soir.
On ouvre son cœur. Ouais, c'est ça. On se regarde dans le miroir et on fait, ouais, ok, d'accord. Ils ont lâché quand même la Bloodline. le chef de la tribu,
oui.
Trouble Chief, ils ont pas assuré quand même. Donc bah vendredi, SmackDown, ils vont reprendre leur titre pour la 9e fois. Donc c'est à SmackDown hein, qu'aura lieu le fameux match, un rematch entre les frangins Ouzo d'un côté et les frangins canadiens de l'autre. Et cette victoire sera dédiée à notre chef de tribu, Roman Reigns. Et cette phrase presque innocente, en fait, elle va créer le fil rouge de la soirée pour la Bloodline.
Exactement. Et sachant qu'à ce moment-là, justement, en effet, on ne savait pas vraiment que ce serait le fil rouge, comme tu dis. Et c'est vrai que quand il y a eu cette phrase-là, moi, ça m'avait fait grincer des dents, vraiment.
Ouais.
Et sans, bah oui, sans savoir ce qu'allait suivre et ce qui était, bah, au final, plutôt intéressant. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ah putain, c'est. En fait, j'avais l'impression, ouais, que, bah ouais, on était revenu à une sorte de plan-plan d'il y a quelques mois. Enfin, c'est ouais, retour en arrière complet. La Bloodline est soudée. Et puis c'est Tribal Chief par-ci, Tribal Chief par-là. Oh mon Tribal Chief. Et puis on va gagner les titres parce qu'on est les champions. Et puis c'est des revanches, des rematchs, des rematchs. Et puis voilà, patati patata. Quoi, je sais pas. J'étais un peu déçu par cette petite interaction. Et puis bah c'est vrai que c'est du coup il s'avère que voilà ça ouvre des développements scénaristiques qui sont pas déplaisants derrière, mais on va en parler. Et puis ce petit match pas mal, même si écoute, je suis un petit peu voilà, je me suis posé la question vraiment de la nécessité de faire perdre nos chers amis mexicains qui commençaient à se chauffer un peu, la Bloodline qui était globalement c'est bon hein, ils sont au top, il y a pas de problème. J'étais un petit peu déçu parce que je trouvais que bon, bah, Backlash arrive, il y a déjà très peu de momentum, hein. Enfin il y a des matchs, alors moi c'est vrai que j'ai vécu la semaine WWE de la semaine dernière un petit peu de loin, j'ai regardé les shows un peu en diagonale et j'ai découvert la carte de Backlash sur Twitter avec des matchs qui sont tombés du ciel un peu comme ça, donc, notamment Rhea Ripley contre Zelina Vega. Et du coup, en ayant ça un petit peu en tête, je me disais, c'est un peu dommage, je trouve, Backlash arrive très vite, de faire perdre des gens qui sont un peu associés. Enfin, déjà qu'il y a très peu de momentum, un peu. Alors tu me diras, voilà, c'est des mecs, elle, c'est une nana, ils sont pas dans la même division et tout. Mais je sais pas, je trouve que dans l'inconscient collectif, c'était pas nécessairement le moment de faire passer un peu la WO pour des perdants, parce que. Bah, il y a leur copine là, qui a un gros match, et puis peut-être qu'ils vont avoir un match à Backlash, je ne sais rien. Donc je sais pas, je trouvais que le résultat était dispensable. Et voilà, c'est le seul petit bémol, même si ils ont globalement eu une bonne interaction avec la Bloodline, c'est-à-dire qu'ils sont bien battus quand même, le match était plutôt sympa à suivre. Hein. Mais voilà, peut-être que je regretterais ça.
Ouais, bah écoute, oui, c'est vrai. Bon, ça m'a pas trop dérangé, toi. Je dis, c'est les mecs qui sont malgré tout, voilà, qui ont retrouvé une place dans le programme, qui sont présents ce soir. Tu perds contre la Bloodline, donc c'est pas. Voilà, personne
non,
va t'en vouloir.
Pas infamant du tout. Hein.
Et puis, je suis même pas sûr que ces mecs-là ont un match, en fait, à Backlash.
Alors, non, pour l'instant, non.
Donc, c'est vrai que, bon, à la limite. Mais je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, ce pay-per-view, voilà, hein, il est tombé du ciel. Et les matchs sont bookés sur Twitter. Donc, tu sais.
Voilà.
Il va passer vite fait.
C'est pas le résultat qui m'aura le plus emmerdé cette semaine.
Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, ça, je le garde pour plus tard. Ça aussi. Alors, on a eu Trish Stratus et Becky Lynch.
Ah.
Ouais. Je saute directement à ce beau dossier-là. Trish Stratus, femme mûre, disponible dans ta région, mon beau Jessical. N'hésite pas. Hein.
J'ai vu les pubs, j'ai vu les pop-up. Mmh.
C'est géolocalisé, hein, elle est partout à la fois, ouais. Cette Trish Stratus.
Je crois que j'aurais pas dû accepter les cookies des sites, là.
Mais oui, voilà, il faut dire seulement les cookies obligatoires. Il faut pas dire, ah, oui, je vais tout accepter.
Je me suis bien fait avoir, là, j'ai des photos de Trish qui arrêtent pas d'apparaître partout à la place de mes commandes Deliveroo.
Bon, et alors Trish Stratus, pourquoi Becky n'est pas des CLC, pourquoi Becky n'est pas là? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences ces dernières semaines, ça c'est un truc qui me casse un peu les bonbons là. C'est bien beau. Ça file des congés payés là, ils ont combien? Ils ont 10 semaines de congés payés maintenant. Je sais pas si c'est la bonne idée de donner des congés payés juste après WrestleMania, toi. Tout d'un coup, voilà, tout le monde se la coule douce. Mais Trish Stratus a dit ouais, j'ai un petit secret, Becky va pas bien. Et pas bien, Becky est même venue la voir en disant voilà, j'ai une grosse pression d'être au top de la division, en plus je suis une mère, tu comprends, c'est pas facile. Et l'autre lui a dit, Trish a dit, bah je sais, moi-même je suis l'heureuse maman de trois magnifiques bambins et j'ai fait, j'ai tout fait comme toi, mais j'ai pas craqué, moi je craque pas, moi je craque pas. Et du coup, elle s'est occupée un petit peu de Becky et puis bah, Becky est à la maison et Becky peut dire thank you Trish. Tout comme on devrait tous remercier finalement Trish Stratus. On devrait dire merci Trish Stratus. Est-ce que tu dis merci Trish Stratus? Parce qu'on voilà.
Non,
On
je dis pas
s'acclame cette
merci
défaite.
Stratus. Moi, c'est vrai que ça me. Bon, allez, c'était quand même mieux. C'était pas mal. C'était une bonne petite promo de heel. Ça
Oui.
faisait. C'était plutôt bien joué. Mais c'est vrai que moi, je suis encore resté bloqué sur celle de la semaine dernière qui m'a désolé au possible. Et puis, globalement, en fait, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir la top woman de la division feuder avec enfin une has-been, quoi, enfin vraiment qui lui offrira même pas un bon match, quoi. Enfin c'est donc je suis un peu je regarde ça ok, c'était pas mal sa petite promo backstage, toujours mieux que devant le public parce que au moins ça
Ouais.
nous évite la gênance du silence
Mmh.
poli des mecs qui lui mettent le décolleté mais qu'on n'a rien à foutre.
Mmh.
Et donc ok, mais ça changera pas le fait que leur match éventuellement ne m'intéressera pas, quoi.
Exactement, j'en pense pas plus, j'en pense pas moins. Faites juste attention aux cookies que vous acceptez. Voilà, c'est
Oui,
ça
c'est
que
tout.
ce serait le
Voilà,
conseil
c'est tout en
de
fait.
Catch
Ouais.
Up à nos auditeurs et
Ouais.
nos auditrices. Un match sans importance, un match quasiment sans intérêt. Les Street Profits ont battu Cédric Alexander et
Ça, c'était
Shelton
gratos.
Benjamin. Gratuit. Allez, boum.
Allez
Ah.
hop, gratos.
Je sais même été. Dawkins, je sais pas, il avait l'air un petit peu malade. Il était pas. Il avait l'air un petit
Ouais.
peu. Il avait été un visage un petit peu blanc. Alors je lui dis.
Le seul truc à retenir de ce match, c'était que c'était quand même l'occasion pour Corey Graves d'appuyer lourdement, alors très lourdement, sur est-ce que c'est la dernière fois que nous voyons les Street Profits ensemble, à un tel point que ça sent quand même la draft. Voilà, il va peut-être se passer quelque chose pour eux, parce que là, c'était quand même très, 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 très appuyé.
Exactement. Voilà pourquoi vous avez vu Street Profit, c'est parce que c'était la dernière fois que vous
En
verrez les Street
profiter, donc
Profit.
du coup, rien de tel qu'un match d'adieu contre Cédric Alexander et Shelton Benjamin.
Qui eux ne sont visiblement toujours pas partis, toujours pas splittés. On ne sait
Non,
pas,
non,
on sait pas. Voilà.
non, non, ils sont contents.
Eux, ils seront Mister Irrelevant, tu sais, probablement.
Ouais.
Dernier à être sélectionné. Ou
Enfin, les draftés.
undrafted.
Oui,
Undrafted, carrément.
undrafted, ouais, tout à fait.
On a eu une petite séquence justement avec Katy Kelly qui était déguisée en Pocahontas ou je sais pas quoi. Elle avait une coiffure assez étrange, Katy Kelly. Il faut faire attention à comment on se coiffe le matin. Regardez Cody, une belle coupe en brosse et ça suffit. Ça sert à rien de faire des tresses là. Et elle est avec Bianca Belair. Bianca Belair, en parlant de tresses qu'elle a longues, pour avoir sa réaction pour face à Backlash là pour Io Sky avec son match Io Sky. Elle dit écoute. Écoute, écoute, Cathy, Io Sky, elle mérite sa chance, elle est prête, elle est forte, elle est formidable, elle est belle, elle est magnifique. Et puis là, Damage Control débarque, Bayley dit, ouais, sois prête à perdre le titre. L'autre, elle dit, ouais, j'ai pas peur de me battre, c'est la compète, j'adore la compète, je vis pour la compète. Puis Triple H m'a dit que j'allais garder la ceinture pendant 6 ans, donc voilà, je suis prête à faire des matchs que je vais pas perdre. Elle dit, écoute, t'as jamais affronté quelqu'un comme Io Sky. Elle, c'est autre chose quand même par rapport à moi qui suis une grosse loseuse. Et puis là, Io Sky parle en japonais pour dire qu'elle va l'affronter ce soir. Elle veut l'affronter ce soir. Et Belair accepte plutôt un 3v3.
Ouais.
Ouais, c'est un peu chelou. Et Io Sky n'avait pas l'air très contente d'être un petit peu interrompue hein, par Bayley, qui agit
Même temps, on
toujours
sait
comme
pas trop. Hein.
Ouais,
Ouais,
le
on comprend
leader
pas ce
qu'elle
qu'elle dit.
n'est
Alors
plus
bon,
vraiment.
oui.
Oui, c'est ça. Un petit peu de l'eau
Ton
dans le gaz. Oui,
interprétation est un petit peu cavalière. Hein. Moi, je sais pas, j'ai rien compris. Hein. Dans notre
l'autre a dit, oui, j'accepte le 3v3 que tu m'as proposé. Non, mais c'est pas ça que je lui ai dit, bordel. C'est pas ça que je lui ai dit. Bon, voilà, le match, un petit peu plus tard, un 3v3. Donc, Damage Control qui affronte Bianca Belair et deux invités surprises, Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Oh, la belle surprise.
Alors,
La belle surprise.
la belle surprise.
Voilà, un match sans gros enjeux, si ce n'est, oh là là, regardez, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez Damage Control au grand complet. Je sais pas si
Eh oui,
Corey Graves
parce que
l'a
la
dit, mais
draft,
est-ce que Corey Graves il a
nanana.
dit ça? C'est
Sans doute,
possible.
sans doute.
Ouais,
Oui.
sans doute.
Oui, il a dû le dire, je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé le match, donc je ne saurais même pas dire.
Eh ben moi je vais te dire ce qui s'est passé à la fin du
Vas-y,
match. Alors
dis-moi
là,
ce qui s'est passé, je sais même pas ce qui s'est passé.
Rodriguez à un moment donné a échappé Morgan pour la balancer sur Bailey parce qu'elle utilise voilà sa copine pour comme missile. Elle la place voilà en powerbomb sur Bailey et Dakota Kai. Et puis Bianca Belair a fait son KOD sur Bailey donc qui a bouffé ah oui qui a bouffé le tombé donc voilà elle
Donc,
pèse
Damage
encore
Control a perdu.
grosse. Grosse loseuse, Damage Control a
Logique.
évidemment perdu. Io Sky avait pas l'air très contente. Voilà, parce qu'elle se fait couper la parole par Bayley. Et Bayley leur coûte le match. Donc c'est pas génial. Elle qui avait tout fait pour essayer de gagner ce match. Ben voilà, ben non. Bianca Belair, Rodriguez et Morgan ont remporté ce match.
Voilà. Non, non, mais c'est vrai que ouais, quand Damage Control est. Il y a eu la musique de Damage Control, c'était.
Ah.
Et puis tu voyais les trois qui sont arrivés dans le stade, je me suis dit, ah, tiens, contre qui Damage Control va perdre ce soir? Et donc, bon, ça n'a pas loupé. Et puis, bah, en fait, ouais, franchement, j'y arrive même plus, en fait. J'ai juste zappé le match, j'avais même pas envie de me faire chier. Je savais pas si ça allait durer 3 minutes ou un quart d'heure, j'ai juste avancé parce que. Ça me gonfle en fait. Enfin, j'ai aucun intérêt. Enfin, l'interaction. Bianca, elle a rien à dire. C'est tout le temps la même. Et puis ce truc, ouais. En fait, moi, j'attends juste que ça passe parce que c'est triste. Hein. Moi, je suis content pour Io Sky. C'est peut-être le seul truc positif parce que je me mets à sa place. Elle est jeune. Elle a jamais eu d'opportunité pour le titre. C'est un gros match en pay-per-view et tout machin. Donc c'est cool. Enfin, franchement, c'est cool pour elle. Moi, je suis content. Je suis pas non plus un connard. Hein. Je me dis tant mieux pour elle. Voilà. Après, le truc, c'est on peut pas se leurrer. Enfin, elle sera jamais championne. Mais jamais, jamais, jamais. Donc du coup, c'est même pas sur ce match. Elle sera jamais championne tout court à la WWE. Voilà. On attend poliment que ce match passe, que Damage Control split, que ils aillent tous faire autre chose d'inintéressant. Et que Bianca Belair passe à autre chose. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, quoi.
Ouais, bah exactement. On attend que ça se passe, en attendant qu'il se passe vraiment quelque chose.
Ouais, on attend qu'il se passe un truc, quoi. Voilà, c'est.
Mais ça viendra d'où, je ne sais pas. Ça vient
On
d'où.
sait pas.
Ouais. Bon, bah écoute, en attendant que ça se passe, retournons à nos moutons. Je vais garder la grosse annonce de Triple H pour la fin. Tiens, hein?
Ah.
Ça te dit?
Ah.
Ou
Bah,
tu veux en
écoute.
parler maintenant? Ouais, on va garder
Comme
pour
tu
la
veux,
fin.
comme tu
C'est le
veux.
gros sujet. C'est le gros sujet. C'est le gros
Gros
sujet.
sujet.
En fait, je vais en parler dès que je voudrais en parler. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais en parler. Attends, le mec relou, le mec qui en fait qu'à sa tête. Le mec qui en
En
fait
plein
qu'à
milieu d'une promo, il va faire. Bon, et alors maintenant?
C'est
On
ça,
switch.
c'est ça, c'est ça. Bah, tu sais quoi, en fait, on va en parler maintenant, sinon je vais perdre le
Ah
fil. Boum, allez, c'est. Allez, allez, je sens que tu veux en parler. Alors, Triple H, écoute, Giscal, il avait une annonce qui allait rock the
bah.
foundation of WWE.
Ça me vénère, ça. Putain, j'en avais marre de leur bandeau en bas de l'écran là. C'était même pas bien. Up next, Triple H, c'était up next. Triple H has an announcement that we rock the foundation of the WWE.
Oh
Genre,
là
ils arrêtaient pas de le répéter. Je dis putain, mais vous êtes vraiment des enfoirés du marketing de merde. Mais genre, c'est à Tu dis, mais oui, mais c'est bon, on va l'écouter votre promo. Il y a pas de problème. Elle arrive. Ok, on va l'écouter.
là. Et ouais, et bah du coup on l'écoute. Alors Triple H arrive. Grosse musique. Le tapis rouge. Il nous explique Triple H. Voilà, en tant que catcheur, que superstar, il a combattu pour tout le monde, pour nous tous. Il a eu la chance d'être ici, dans cette salle, ici même, à WrestleMania, face à John Cena. D'ailleurs, il a botché parce qu'il a dit qu'il avait défendu son titre, mais je crois que c'était John Cena qui était champion à l'époque à WrestleMania 22, il me semble, et qui avait conservé, mais je ne sais plus, je suis plus très sûr. Oui, quand ça vieillit.
En tout cas, je pars du principe que John Cena devait sans doute avoir le titre, mais oui, il me semble bien que tu as raison que c'était lui le champion. Oui.
À vérifier, mais bon, hein, la vieillesse est un naufrage. Et il dit, bah voilà, écoutez, ouais, maintenant, lui, il pense aux générations futures. Voilà, toi, papy H, il pense aux générations futures. Et ce soir, il va parler de Roman Reigns. Oh. D'accord, ok. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qu'allait être l'annonce et
Ah,
tout.
moi non plus, pas du tout.
J'essayais de deviner. Toi, j'ai dit, attends, un truc énorme qui va secouer les fondations de la WWE. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être?
C'était la promesse.
Ouais, je me dis, oh là, Romain, je me suis dit, il y a peut-être un truc avec l'UFC, toi. Je me suis dit, c'est le gros deal, ça a l'air d'être un gros truc. Peut-être, je sais pas, un gros pay-per-view où on va mélanger des catcheurs avec des stars de l'UFC qui vont défoncer les mecs, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, ça parle de Roman Reigns. Ouh là là, qu'est-ce que c'est?
Oh là
Écoute,
là.
Roman Reigns, champion depuis 1000 jours, 1000 jours
Bientôt,
comme
bientôt.
bientôt, 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 bientôt. Je m'y crois déjà. C'est incroyable, on a vu juste ça dans la monnaie. Donc vas-y que je tire les pompes de Roman Reigns. Qu'est-ce qui se passe? Il a battu tout le monde, il a défendu son titre contre tout le monde, il n'y a plus personne peut le battre. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Et puis, Roman Reigns, bah, pendant ces 1000 jours, il a fait quelque chose de bien intelligent. Et là, on bascule un petit peu. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, bah voilà, il balance. Il dit, Roman Reigns, il a réussi à négocier. Il se retrouve finalement d'une position où il n'a pas besoin de défendre le titre très souvent. C'est cool pour Roman Reigns, mais c'est pas bien pour la WWE. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? La WWE mérite plus, les fans méritent plus, les fans méritent mieux. On a besoin de plus que ça. Je vous ai dit, hein, la draft, ça allait chambouler, transformer la WWE. Je vais bah allez, accouche, bordel, qu'est-ce que c'est?
Tu la craches ta pastille.
Ouais, donc là, Roman Reigns, le mec, c'est comme si c'était tordu, hein, leur truc, hein, pour y arriver. Roman Reigns, du coup, il va emmener son titre Undisputed WWE Universal Championship 24/7 avec la draft. Donc voilà. Mais l'autre show, que ce soit Raw ou SmackDown, bah, ils n'auront plus de champion. Alors là, je me dis, bah, il se fout de ma gueule ou quoi? Il est champion des deux shows, Roman Reigns, qu'il aille à gauche ou à droite. D'ailleurs, s'il n'est pas si souvent là, qu'est-ce que ça change qu'il soit à Raw ou à SmackDown? Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, le Hunter, là? Et donc, l'autre show, celui où il n'y aura pas Roman Reigns, qui n'ira jamais dans le show de toute façon, donc, ok. Eh ben, il y aura un nouveau champion. Et oui, puisque le 27 mai à Night of Champions, je me dis, attends, c'est comment ça, Night of Champions? Encore un nouveau pay-per-view? Non, jusqu'à visiblement, ils ont renommé le King and Queen of the Ring. Hein,
Ah bon?
qui, oui, c'est
Pourquoi?
ça. Ouais, qui a lieu en
Ah.
Arabie Saoudite. Du
Ok,
coup,
d'accord.
visiblement, ils ont. Parce que je me dis, mais attends, je croyais. Je me dis, Money in the Bank, en fait, il va y avoir un pay-per-view. Et maintenant, il y a six pay-per-views avant les Money in the Bank, c'est pas possible. Et visiblement, donc, c'est le pay-per-view d'Arabie Saoudite est renommé en Night of Champions.
D'accord, ok.
D'accord. Donc, ce pay-per-view du 27 mai aura lieu en Arabie Saoudite. Il s'appellera Night of Champions et il couronnera un nouveau champion pour un nouveau titre, jusqu'à un nouveau titre mondial, le WWE World Heavyweight Championship. Un champion dont tout le monde pourrait être fier, qu'on pourra admirer, un champion qui va défendre son titre n'importe où, n'importe quand, à travers le monde. Je lui dis, mais tu fous de ma gueule, tu viens de dire que ce serait juste pour un des deux shows. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais attends, Triple H, voyons. Un champion qui ne demandera pas qu'on le acknowledge, un champion qui sera méritant, qui. Will earn, quoi, qui va
Oui,
mériter.
bah, il va mériter votre acknowledgement, votre
Voilà,
reconnaissance.
exactement. Et qui donc sera le nouveau champion du monde. On dévoile la ceinture, voilà, il soulève le petit drap, tout en velours, velouté. Et on a un magnifique titre dont le design est largement inspiré de la Big Gold, la fameuse Big Gold, donc le
Ah
titre de World Championship, donc de la NWA, et un petit peu recustomisé avec un beau gros tampon WWE dessus, bien
Grosse tempe.
bombé, comme Giscard aime. Un nouveau
Exactement.
titre mondial, la foule qui accueille ça, oui, contente, mais c'était pas non plus la grosse folie, parce que c'était un petit peu long tout ça, un petit peu capillotracté, et Giscard est content.
Et oui, moi je suis très content. Alors je suis
Écoute.
très très content. Ça m'a pour tout un tas de raisons. Moi j'ai Alors c'est vrai que je n'adhère pas trop au discours de mais que tu défendras peut-être après derrière de championnat des losers, de prix de consolation parce que ce titre reprend une lignée quand même qui existe hein. C'est pas un titre qui est créé du néant, c'est la renaissance aussi moi d'une ceinture qui m'avait beaucoup beaucoup plu à l'époque quand j'avais repris d'ailleurs le visionnage de la WWE activement début des années 2000. Et notamment à SmackDown, c'est un titre iconique, beaucoup porté et défendu par l'Undertaker, par Chris Jericho, par pas mal de Triple H aussi évidemment, donc de catcher, et qui est plus estampillé un peu SmackDown dans mon esprit peut-être, mais que TWE. Oui. Et donc bon, bah, c'est la renaissance voilà d'un titre quand même assez légendaire, d'un design de ceinture qui déjà au demeurant je trouvais magnifique, enfin une sorte de revisite un peu moderne. Alors j'aurais préféré, en effet, tu rigolais, tu me prends à partie là-dessus, c'est vrai que j'aurais préféré un design un petit peu plus flat, comme le design de l'époque, et peut-être qui aurait fait quelque chose d'un peu plus moderne, parce que là, bon, côté un peu bombé, c'est vrai que ça fait un petit peu jouet sur les bords, mais bon, globalement, le design est plutôt réussi. Et puis aussi, c'est surtout qu'en fait, ça, pour moi, ça annonce quelque chose que... Bah, que j'appelais un petit peu de mes voeux, peut-être inconsciemment, parce qu'au final, j'en parlais jamais, mais maintenant que ça devient un petit peu une sorte de petite réalité, je me dis, ah ouais, ça me plaît beaucoup, et je me dis que c'est peut-être ça dont j'avais besoin. C'est cette fameuse, finalement, ce serpent de mer qu'il y avait de re-vraiment découper les rosters, les shows, leur redonner une identité propre. Et ce titre est un pas quasiment indispensable pour le faire. Et de retrouver finalement... peut-être un l'esprit un petit peu de ce qu'on avait il y a quelques années aussi, hein, quand on a commencé Ketchup, on rigolait avec le supplément SmackDown, et puis le fait que SmackDown était vraiment un show avec, au-delà du fait que les couleurs étaient bleues, enfin on changeait pas juste le tablier du ring, il y avait une identité vraiment très très à part. C'était un petit peu le show des workers, c'était là où on mettait un petit peu plus l'accent sur les gars un petit peu méritants, les techniciens, les histoires un petit peu plus chiadées. C'était un show un petit peu plus simple qui se prenait un petit peu moins la tête, alors que Raw c'était le côté très bling bling, le main event, le grandiloquent, les stars, les gros calibres, les gros bonhommes, et le titre WWE justement qui était plutôt adressé à ces gars-là. Et je trouvais que ce côté c'était assez rafraîchissant de se dire quand je vais à SmackDown je vais pas voir la même chose que quand je suis à Raw, et y en a un petit peu pour tous les goûts. Et ce titre World Heavyweight Championship, pour moi, réouvre la porte à quelque chose qui, je pense, serait un petit vent d'air frais, en tout cas un retour aux sources bénéfique pour la WWE, où aujourd'hui, une des critiques, un petit peu sans jamais vraiment la formuler, mais au final, quand on y pense un peu, tout ce qu'on reproche, je trouve, de manière un peu générale, c'est que tout est globalement très interchangeable, il y a un petit peu une sorte de dilution, d'édulcoration un peu de tout sur les storylines, l'humour, donc voilà, pour tout un tas de petites raisons comme ça, c'est un signal assez fort que cette création de titre envoie, et cette draft qui arrive est plutôt porteuse d'espoir pour moi, donc je suis plutôt content de cette annonce. Ouais.
Je comprends ce que tu dis.
Je t'entends, j'entends ce que tu dis.
Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné et qui, sur le coup, m'ont même énervé. Je n'étais pas content devant mon écran. La première, évidemment, c'est le discours de Triple H. La façon dont il a justifié l'arrivée de ce titre et qui était forcément une espèce de... Tout ce qu'il a dit par rapport à Roman Reigns, ça me rendait complètement dingue parce qu'en fait, on était en train de... Si tu veux, de tout défaire par rapport à ce que ça représente. Ce que ça représente, le règne de Roman Reigns et sa mainmise tout en haut de la montagne. Et effectivement, tous ces mecs qui doivent se battre pour aller chercher Roman Reigns. Et qui, du coup, en fait, on se dit, ce mec est tellement trop fort et qu'on peut même pas aller le chercher, qu'on va créer un titre qui est... Alors... qu'on peut interpréter comme un titre de compensation, un titre des losers. Bon, évidemment, on exagère en disant ça.
Mais je vois ce que tu veux dire, la façon dont il l'a présenté.
Genre, on se retrouve... Bon, les gars, on est vraiment désolés, là, mais là, c'est pas possible.
Vous le battrez pas, de toute façon.
Vous le battrez pas, de toute façon. Giscard, il a dit 10 ans, il avait raison, hein, c'est parti pour 10 ans.
Désolé.
Et du coup, il y a deux choses. Il y a le côté, effectivement, ce titre-là, c'est quoi ? C'est le titre B, quoi, de ceux qui peuvent, de ceux qui ont essayé de battre Roman Reigns, mais qui n'ont pas réussi. Mais c'est aussi ce côté, finalement, aller chercher Roman Reigns, c'est plus ce qui est important, quoi. toi, c'est plus aussi important d'aller chercher Roman Reigns parce que bah, on a créé ce nouveau titre et que du coup, il y aura un titre pour Raw et puis il y aura un titre pour SmackDown et il n'y aura plus ce titre qui d'ailleurs est un double titre. Hein. Il dit qu'on crée un... Donc il y a trois titres. Oui. Hein. Il y a trois titres.
D'ailleurs, faudra peut-être penser à le
fusionner.
À le fusionner quand même. Ce sera quand même.
Avoir désactivé. C'est ce qui va se passer. Ils vont désactiver un des deux titres.
Universel.
Ouais, le titre universel va se terminer et on se retrouvera plus qu'avec deux titres à la fin. Mais vraiment, ce côté, ouais, voilà, Roman Reigns, et du coup, ça isole. Tu vois, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est que ça isole Roman Reigns, qui se retrouve un petit peu bah, le champion du monde de son île, quoi. Ouais, il est sur sa petite île, avec ses deux ceintures, on le voit pas, il vient de temps en temps, il vient faire coucou, et puis, bah, c'est pas très grave, finalement, puisque ce qui est important, la vraie fête, si tu veux, là, ce qui se passe pour de vrai, là où les vrais champions se battent pour avoir les vrais titres, Toi, c'est ça qui m'embêtait, disait genre les vrais champions, un vrai public qui va vraiment se battre, et ben ça va être dans l'autre show avec finalement la vraie ceinture du peuple quoi, la vraie ceinture du peuple. Ouais. Alors que là ça fait deux ans qu'on est obligé de acknowledge Roman Reigns qui est le roi suprême quoi, le chef tribal et que on se retrouve en dessous de, enfin on est à la merci quoi de Roman Reigns et que le jour où Roman Reigns tombe et ben on libère le peuple et enfin la fête reprend quoi. Et vraiment je suis embêté dans cette on est une espèce de, c'est à la fois du au niveau de la qui est faible, c'est du kayfabe et du booking là qui se mélange et on justifie la création de cette ceinture par le fait qu'on a un champion qu'on n'arrive pas à battre. Bah, je serais tenté de dire...
là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Tant mieux pour lui, tant pis pour les autres. Ouais. En fait, c'est la façon dont ce titre est terminé qui vraiment, moi, me gêne.
Je suis d'accord que sur la forme, c'était maladroit. En fait, moi, c'est vrai que je ne me suis pas trop formalisé sur ce sujet-là parce que... Mais je suis d'accord, hein, c'est vrai que le discours de Triple H n'était pas ouf du tout. Et il y avait plein d'autres façons de le faire. Déjà, on peut peut-être aussi reprocher le timing. Peut-être que l'annonce aurait été beaucoup plus claire et limpide pour toutes les sensibilités, on va dire, si ça avait été le soir de la draft ou après la draft. Parce que la justification, parce que in fine, ce qu'il essaye de dire un peu maladroitement, parce que oui, il utilise des éléments de langage qui font clairement penser à on va en faire un autre parce que vous n'y arrivez pas, mais au final, ce qu'il dit aussi, c'est que il faut que les deux shows aient leur ceinture, comme à l'époque en fait, et d'une certaine manière, quand le titre World Heavyweight Championship existait et le titre WWE Spinner existait à côté et tout, ils avaient toutes les deux leur lignée, leur prestige et leur aura, et les deux matchs pour les titres mondiaux en pay-per-view étaient éminemment prestigieux, et je suis absolument pas inquiet sur le fait que il va reprendre assez vite ses lettres de noblesse, parce qu'encore une fois, c'est pas un truc qui est... Je trouve qu'on est dans un cas de figure un peu différent de quand il y a 5 ans, je sais pas exactement le titre universel, depuis combien de temps il existe, mais peut-être 5 ans à peu près, je sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être plus d'ailleurs, parce qu'on voit pas le temps passer. Mais quand il avait été créé, ça faisait vraiment pour le coup un peu sorti du chapeau, déjà ne serait-ce que le nom... une couleur un peu bizarre, tout rouge et tout. Il n'y avait pas ce côté un peu dynastie et on créait ce titre un peu du néant comme ça pour justement en donner un deuxième et contenter d'autres catcheurs. Là en fait, je trouve qu'on revient un petit peu aux sources deux shows, deux ceintures, deux champions mondiaux, deux philosophies aussi un petit peu de champions. Parce que historiquement, le titre World Heavyweight Championship et le titre WWE, c'était pas exactement les mêmes titres, c'était pas perçu pareil. Et ça me choque pas trop qu'il y ait un discours un peu de vrai champion méritant, de worker, de machin, parce que c'était aussi un petit peu ça à l'époque, le truc. Néanmoins, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'au final, le message avec Roman Reigns, ça brouille vachement le truc et ça envoie pas le bon. Ça envoie sans doute pas le bon signal, parce que finalement, tu mêles un retour aux sources bénéfiques et qui est complètement lié au fait que manifestement ils veulent faire quelque chose de fort avec la draft, et en même temps avec cette histoire de Roman Reigns qui Et ce Laïus en effet un petit peu chelou sur bah oui il est futé, il est malin, il a négocié de pas défendre souvent, et puis de toute façon personne n'arrive à le battre, donc on va faire un deuxième titre. Mais bon, sur le principe, ça m'a pas trop choqué parce que voilà, moi j'étais un peu en mode content de ce que ça impliquait. Mais sur la forme, je te rejoins quand même pas mal. Hein, ouais.
Ouais. Bah, retrouvons-nous alors le au milieu du pont. Nous nous retrouvons, oui, avec Giscard. Nous nous serrons la main parce que nous nous respectons. Effectivement, il aurait fallu. Je l'aurais largement accepté si on l'avait présenté
lundi prochain, en vrai.
Lundi prochain, ouais, lors de la draft. Roman Reigns est drafté à Raw, par exemple.
Ouais,
il
voilà,
est drafté à Raw. C'est le gros show, le spectacle, les paillettes. Et du coup, bah, grosse annonce pour la draft. Chaque show mérite voilà, son titre mondial. Ouais. On réactive un titre prestigieux qui a fait les beaux jours de
exactement,
SmackDown,
exactement,
le World Heavyweight Championship. On réactive la lignée. C'est la lignée officielle du World Heavyweight Championship. Et on dit pas Roman Reigns, il veut pas se battre. On dit pas personne n'arrive à battre Roman Reigns. C'est pas pour ça qu'on crée le titre. Là, on a donné la mauvaise raison, en fait. On a donné la mauvaise raison. Et ça m'a gêné. Alors, une fois que tu passes à autre chose, voilà. Mais j'en ai marre de devoir faire le boulot, toi, des mecs qui écrivent. Putain, j'ai rien les
non,
mecs.
Mais
qui...
oui. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Et puis en plus, il faut que je sois honnête, parce que c'est souvent une critique que j'ai répétée quand même beaucoup, c'est qu'on a tendance parfois à devoir quand même réinterpréter tout un tas de choses pour parfois, alors que ça pourrait être beaucoup plus de manière beaucoup plus facile, simple et limpide être fait à l'écran. Donc il faut reconnaître que ouais, c'était pas une très bonne promo de Triple H globalement.
Bon, bah, en tout cas, voilà, un nouveau titre de champion du monde, et puis bah, Seth Rollins qui sera le premier champion.
Il faut se dire que, du coup, à Money in the Bank, on va peut-être avoir deux matchs pour le titre mondial, on ne sait pas.
Ouais. Et puis, un truc qui est cool aussi, c'est que même s'ils avaient fait le titre secondaire, ça rajoute un peu de... Par rapport à Money in the Bank, ça rajoute aussi un petit peu de suspense. Hein,
Est-ce qu'on va revenir à deux mallettes, je ne sais pas. Tout est possible. Est-ce que ça va être une mallette pour les deux ceintures? Est-ce qu'on va revenir à des pay-per-view brandés, peut-être? Je ne sais pas.
Plein de choses intéressantes. Austin Theory, lui, avec son titre US, qui était redevenu le titre le plus important, finalement, oui, là, on relègue les titres secondaires en arrière-plan. Il nous souhaite la bienvenue. Il y a deux personnes qui veulent faire partie de la Theory Live Experience, Seth Bronson Reed et Bobby Lashley. Lui qui est le meilleur champion des États-Unis de tous les temps. Il n'a pas choisi son adversaire, que c'est ce bordel. Et là, il voit le nouveau titre présenté par Triple H. Alors voilà, il voit être plusieurs comme ça à reluquer le titre. Il ne devrait pas être sur le podium. Ce titre devrait être autour des hanches d'Austin Theory. Triple threat match. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il peut perdre son championnat sans recevoir de tombée. N'importe quoi. Alors Bobby Lashley débarque. Il dit voilà, ton problème. Le problème que j'ai, c'est que tu portes ma ceinture, ça c'est ma ceinture. On dit mais non, ça c'est ma ceinture, c'est moi le champion. Est-ce que t'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu devrais accepter chaque opportunité. Donc voilà, un match à Backlash. On lui dit qu'est-ce que c'est que ça? T'es là à demander des matchs, mais il est tout ton match à WrestleMania là.
Ouais, ça c'était pas mal ça.
tu réclames des matchs le chi il sourit. Aïe.
Ouais. Moi j'étais là devant mon écran, j'étais un peu là.
Même la foule était là. Il dit attends, je devrais te casser les dents pour ce que t'as dit. Qu'il dit oh, bah, ouais. Alors en théorie, c'est de frapper, mais bon, l'autre il l'évite. C'est le gros tac, c'est la grosse brawl. Et puis il y a Bronson Reed qui débarque, qui écrase le pauvre Lashley contre le poteau. Et voilà, et c'est le bordel. Et puis il fait un gros tsunami aussi à Austin Theory. Et puis c'est Bronson Reed donc, qui prend la ceinture pour le triple frit. Est-ce que c'est... Ouais, c'est un backlash, cette triple frit.
C'est un backlash. Ouais. Ça a été pareil, sorti du chapeau sur Twitter.
Austin Theory qui se retrouve en sandwich entre deux gros bonhommes. Ouais. Hein,
et booké a posteriori. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça ce qu'on a eu là. C'est le booking qui aurait dû conduire sans doute à l'annonce du match. Quoi, qu'on a eu lundi, mais bon, le community manager de la WWE la semaine dernière, je sais pas, il avait les doigts qu'il démangeait, il a posté tous les visuels de la carte avant que les bookings soient faits, je sais pas.
Bah,
D'accord.
Donc ouais, écoute. Bon, là aussi, c'est vrai que ah, je serais de mauvaise foi quand même, je trouve, si je n'adressais pas les mêmes critiques qu'aux femmes sur ces sujets-là. Mais je trouve quand même que là aussi, on attend quand même un peu de passer à autre chose et qu'il se passe des trucs. Parce que, bon, ok, c'était sympa, hein, franchement, enfin, l'interaction était très cool. Hein, la promo, c'est-à-dire que contrairement aux nanas, eux, ils ont le mérite d'être divertissants. Donc la promo était très sympa, c'est des gros mastocs, ça s'est cogné fort, le tsunami et tout, c'était super. Mais c'est vrai que de revoir en fait Austin Theory et Bobby Lashley au micro pour le titre US,
Impossible.
c'est pas possible quoi. Alors là, ils ont rajouté Bronson Reed par-dessus, mais bon, on sait déjà comment ça va se passer. Reed et Lashley vont se neutraliser, Theory va s'en sortir comme un filou et puis eux, ils vont continuer leur feud pendant que Theory va peut-être enfin se trouver une vraie feud à lui, parce que bah, il se passe pas grand-chose quoi. Donc ouais, je reste un peu quand même sur ma faim et c'est vraiment lié à ce contexte général qui fait que putain, en fait, Backlash, on a juste envie que ça passe quoi. Enfin, il va rien se passer. Enfin, il va rien se passer. C'est un peu déprimant, je trouve, comme pay-per-view là, qui se profile.
Bah écoute, si t'es déprimé, j'ai une solution pour toi. Il faut que tu sois positively. Positively. Séquence entre Elias et Rick Books, ça discute. Il dit, bah voilà, c'est la draft, il y a le titre. Oui, ça lui fait briller les yeux là. Il dit, attends, je te rassure, pas de problème. Tout va bien se passer. Gable débarque, il dit, ouais, attendez, hein, faites gaffe, hein, parce que les superstars peuvent être échangés hein, pendant la draft. On peut séparer
Attention,
les
hein.
équipes.
Ouais.
Et lui, il dit, bah moi je me suis assuré que la Alpha Academy resterait ensemble, hein, parce que souviens-toi, hein, dans les drafts, on peut avoir des équipes qui sont enfin en un seul pic, tu peux avoir
Oui,
toute une
tout à fait.
faction quasiment, même si tu veux. Donc,
Je sais pas quel est l'intérêt, mais oui, on s'en fout.
ouais. Et puis là, il y a Maxime Dupri qui arrive et qui dit, bah, moi aussi, moi je me suis assuré d'être avec Otis aussi, partout où il va. Oh bon,
Voilà, c'est
d'accord.
tout.
Oh, Otis, c'est un homme très demandé, tout le monde veut suivre Otis. Et là,
Oui, c'est un peu chaud.
Mustapha Ali débarque, donc local, hein, tout à fait, il est de Chicago. Et puis il dit, bah écoutez, faut rester positif avec la draft, pas de soucis. Il dit, Gable, t'auras ta chance avec ton potentiel. Tu vas être le nouveau champion mondial. Bon, par contre, ça sera la fin de l'Alpha Academy. Et puis au final, tu seras juste un grand perdant comme ce soir pour le match qu'on va avoir, toi et moi. Et là, Otis s'interpose, il dit, bah, que son grand maître, Chad Gable, va se débarrasser d'Ali ce soir. Il va le faire trembler. Et donc on a un match entre Chad Gable et Mustapha Ali qui voit la victoire surprenante de Mustapha Ali, la positive attitude qui le surprend voilà, en faisant un petit compte rapide là, il le prend par il le inverse enfin Gable veut placer une énorme souplesse à Mustapha Ali et puis Ali lui attrape enfin voilà, le colle au sol voilà, un petit paquet quoi pour le compte de 3 et Ali qui gagne une belle victoire voilà en local et qui n'en croit pas ses yeux et tout ça a été ma foi assez court et divertissant, drôle.
C'est ça, exactement. Pas trop compris. Enfin, c'est vrai que ça vient un peu de nulle part, cette victoire de Mustapha Ali, mais ok, ouais, court et divertissant, en effet. Court et divertissant, voilà, comme tu as dit, j'ai pas grand-chose d'autre. Là aussi, on attend que ça se décante un peu, cette histoire avec Maxine. On en saura peut-être. De toute façon, j'imagine que maintenant, ça va être le commentaire pour tous les segments, mais on en saura plus après la draft, quoi. Mais
Ouais, c'est ça.
oui, on attend un peu que ça se décante. Et puis, bah, Mustapha Ali, qui s'est fait plaisir devant ses copains et sa famille. Donc, tant mieux.
Ah ouais. Juste pour parler du match entre Finn Balor et Cody Rhodes, qui n'était pas le main event.
Eh
Ah,
ben non. Non,
ouais.
non, surprenant,
Ah ouais.
mais
Surprenant, surprenant.
préféré
Bon.
mettre une beaucoup plus grosse affiche.
Ouais. Bon, un match très solide hein, qui a vu la victoire de Cody Rhodes, notamment Cody qui a évité le coup de grâce et qui a voulu porter son Crossroads, mais Balor a inversé la vapeur. Et puis le pedigree est passé, voilà, pour Papa Edge, enfin Papy Edge maintenant, et le Crossroads pour la victoire sur Finn Balor dans un match, voilà, un match solide qui aurait tout à fait pu être le main event. C'était assez étrange de ne pas proposer ce match en
Ça peut même
main
être un
event.
match de pay-per-view. Ouais.
Mais oui, ça aurait pu être un match de pay-per-view, tout à fait, mais bon, le sort en a décidé autrement. Les dés ont été jetés et Cody
Allez,
Rhodes
hop.
a battu Finn Balor.
C'est ça. Écoute, ouais, c'était pas. C'était, moi, j'ai trouvé que c'était très très cool ce match-là, franchement.
Ah
J'ai
ouais.
trouvé ça très très sympa. Cody Rhodes continue à faire le taf en milieu d'émission à Raw toutes les semaines. Et Finn Balor aussi, hein, depuis WrestleMania, qui est au four et au moulin. Hein. Il est partout et il envoie des bangers, pour reprendre l'expression de notre ami Sheamus, à tire-larigot, là. Donc non, c'est pour ça, hein, c'est pas du tout un match qu'on aurait renié en pay-per-view. C'était, moi, j'ai trouvé ça très cool. Et donc, bonne victoire de Cody contre un adversaire qui reste, quoi qu'il arrive, un peu prestigieux, même si on aimerait le voir quand même choper des victoires un peu de temps en temps, Finn Balor,
mais on se pose encore la question de sa défaite face à Edge.
Tu vois, par exemple, c'est vrai que je pense que, tu vois, même a posteriori, hein, mais c'est la victoire de Cody Rhodes aurait beaucoup plus de résonance et le match aurait sans doute été encore plus impactant si Finn Balor sortait avec du momentum de WrestleMania, quoi. C'est pas l'idée, je pense. C'est vraiment le jobber to the stars là en ce moment.
Je parlais de Seth Rollins, j'ai dit que c'est lui qui allait avoir le titre qui allait être le premier champion du monde poids lourd, nouvelle génération. Et il débarque, il m'a entendu, il a fait une ceinture, oui.
Ça m'intéresse.
Ça fait plus de 4 ans que j'ai pas eu de ceinture titre mondial, hein, cette release. Bah oui, tu m'étonnes personne, hein. Tout le monde est comme toi, mon grand. Voilà, donc lui, encore un qui s'est fait booker son match sur Twitter.
Oui, complètement.
Donc, il dit voilà, Triple H, il a entendu le discours de Triple H, et donc il voit la ceinture, il dit voilà, c'est une chance pour se battre, un titre WWE, plus que qui, au-delà de toute histoire de mecs à temps partiel, un nouveau champion va être couronné, et un indice pour parier. Et là, c'est la musique de Moss qui débarque et qui vient interrompre le discours de Seth Rollins avec MVP qui commence à chauffer Seth Rollins, qui lui cire les pompes. Rollins, c'est brillant, un incroyable talent, sauf pour tout ce qui concerne le look. Et puis Rollins dit voilà. Il faut remercier MVP pour tous ces beaux mots, mais Omos est le plus grand qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il est unique. Lui aussi, voilà, il cire les pompes d'Omos. Mais moi aussi, je suis unique. J'ai travaillé pour en arriver là. Je devrais avoir peur d'Omos, mais j'ai pas peur. À Backlash, je vais prendre. Il va rendre le cul d'Omos populaire avec un grand match avec Seth Rollins. Il va lui éclater la tronche au sol et le stade va chanter sa chanson. Wow. Et le chat de l'arène de Chicago chante la chanson de Seth Rollins, qui doit booker le match à cause d'un community manager qui clique un peu trop.
Clique trop vite.
Vite.
C'est ça. Ouais, écoute, passe d'armes là aussi, hein, très 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 bon boulot. Enfin, Seth Rollins parle un petit peu suite à WrestleMania. On se demandait, hein, il était là que pour chanter et faire le touriste, mais donc ça y est. Il a un micro-programme, alors voilà, là aussi, hein, ça s'arrêtera post-backlash, il faudra quand même savoir ce qui va se passer de concret pour lui. Mais bon, ce qui va se passer de concret pour lui, je pense que c'est en effet, hein, c'est la plus grosse cote, hein, pour le être champion inaugural. Moi, c'est vrai que c'est un peu le pronostic qui semble évident, mais qui est, au-delà d'être évident, qui je pense sera aussi le bon choix. Mais donc Seth Rollins qui évidemment a eu bon rôle de tout de suite, à peine l'annonce du titre faite, tout de suite arriver en mode oula, ça m'intéresse, c'est bien ça, ce truc là à côté. Donc j'ai bien aimé, c'était pas mal. Et puis la petite interaction avec Omos et MVP aussi était plutôt cool. Donc encore une fois, un petit peu comme le triple threat pour les États-Unis, on build le match après l'avoir annoncé, mais au moins on a le mérite d'avoir ce petit build. Et c'est vrai que ce Omos, finalement, d'une certaine manière, il y a ce côté tellement ce géant complètement surréaliste, ouais. Là, cette taille, il lui prend trois têtes. C'est un petit peu comme contre Brock Lesnar, en fait. C'est aussi pour ça que c'est quand même assez utile d'avoir des gars comme ça dans le roster. C'est ça se book quasiment tout seul, parce que ouais, d'une certaine manière, t'as quand même envie de voir. Enfin, tu vois, t'as envie de voir, voilà, ce que Seth Rollins va faire pour bouger un petit peu le géant. De la même manière qu'à WrestleMania, il y avait cette curiosité aussi de se dire, bah tiens, voilà, est-ce qu'il va réussir à lui faire ses German suplex et tout. Donc, le simple fait de les mettre face à face avec MVP qui fait un peu le hype man, promoteur de boxe et compagnie, là, le visuel fonctionne plutôt bien, donc ok, je, segment validé, on va dire.
Ouais, segment validé, et c'est Rollins, donc, qui a déjà le regard porté sur cette belle ceinture pour le 27 mai, à Night of Champions. Avant d'arriver au match du main event, on va vous parler du fil rouge. On va discuter de ce petit fil rouge qui a été tendu tout au long de l'épisode. Donc, je vous disais, la Bloodline qui était dans les parages. Ils sont au téléphone. Il est au téléphone, il dit « Ouais, on a géré. » Jay dit « On a géré. » Donc, il est sûrement avec, avec le Trouble Chief, j'imagine. Il est au téléphone. Est-ce qu'il y a que le Trouble Chief ou avec Poleman, peut-être ? Et puis, il croise Sami Zayn, Jay. Il raccroche. Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Sami dit « Écoute, je suis pas là pour me battre. On va se battre vendredi. Mais j'ai entendu ce que tu as dit là tout à l'heure après ton match. Tu veux dédier le match à Roman Reigns, mais t'es complètement au courant, t'es complètement fou, quoi. déjà, un, on va pas perdre les titres vendredi. Mais qu'est-ce qui va se passer d'après toi quand tu vas perdre alors que t'as mis le nom de Roman Reigns en jeu, finalement ? Ça sera pas beau, hein ? Ah non, non, non. Et tu mérites pas ça, mon Jay. Ou tu mérites pas ça. Et Jay, ouais, tu vois, il est toujours aussi perturbé, toi. Après, il dit, bah, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Oui, il dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Pourquoi tu t'en préoccupes ? Il dit, bah écoute, je me sens mal. Je me sens mal pour toi, toi, grosso modo. Il dit, mais t'as pas besoin de te sentir mal, qu'un vendredi, on va te prendre les titres, c'est toi qui vas te sentir mal, tu vas voir. Oh. Donc là, oh, petite évolution, toi. Donc, Sami qui toujours se préoccupe quand même de Jay. Voilà.
Ouais.
Toujours Jay dans son cœur.
Trop gentil.
Ouais, trop gentil. Et Jay qui montre qu'il est, que les paroles de Sami le font quand même travailler, même si à chaque fois il redresse la tête et dit tais-toi. Un peu plus tard, Jimmy dit ouais, grosse fête ce soir, on va bien s'ambiancer, mais Jay il écoute pas, il dit qu'est-ce que tu dis ? Jimmy dit qu'est-ce qui va pas là, mon frangin, mon frère là ? Puis t'as Solo qui est derrière. Et Jay dit mais t'as pensé à ce qu'elle va se passer si on perd là vendredi ? Parce que j'en ai parlé à Sami et quoi, j'ai commencé à parler. Quand il a dit ça, lui, il est ouf, quoi. Il est ouf de dire ça, mec. Et il se fâche, c'est vraiment pas content, Jimmy. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Oublie cet idiot, ce gros, c'est débile, là. Tu peux pas parler à Sami comme ça, tu dois rester concentré. Il dit, ouais, mais si on gagne pas... tu commences à s'énerver, t'en vas aller sur le ring, et puis on va faire comme toujours, on va retrouver les titres, et puis c'est tout. Et puis t'as Solo qui arrête Jimmy, qui commençait à se lever à partir en guedin, quoi. Et Jimmy et Jay, il est pris dans le voilà dans les tourments. Il se pose des questions. Ouais. Un petit peu plus tard, Jimmy vient voir Sami. Il dit mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh, d'où tu parles là, mon frère? Il dit je fais que dire la vérité. Il dit la vérité c'est qu'on va te prendre les titres vendredi. Alors ta gueule. Et puis d'après toi qui est ton pote là, Kevin, qu'est-ce qu'il va faire une fois que vous allez perdre? Il va pas te pardonner hein, tout ce que t'as fait quand tu l'as mis des love kick et tout. Et il va faire comme toujours, il va se retourner contre toi, il va te trahir. Oh, et cette fois-ci c'est Sami qui est pris dans la tourmente, tu vois. Ah oh, mais oui, peut-être, il a raison. Et un peu plus tard, donc on se retrouve avec je crois que c'est la dernière séquence. Matt Riddle, Kevin Owens qui sont là, ils parlent, le backlash et tout. Ouais. Et puis Riddle, il parle dans des délires, je sais pas ce qu'il raconte, là, il parle. Et ça parle de
Paul. Ah, mais c'est énorme ça.
Tu sais ce qu'il lui dit ? Il lui dit un truc.
Il lui prend la tête sur des trucs.
C'est la géopolitique puertoricaine, je sais pas trop quoi.
C'est ça, la mécanique des fluides. Des
ouais. Et donc Kevin qui fait à sa vie, mais t'étais où là ? Il dit, j'ai parlé à OJ, et puis je parlais à Jimmy. Il dit, mais attends, mais t'es fou quoi ? Tu parles à ce gars.
Pourquoi vous parlez tous là ?
C'est d'où tu parles, faut pas parler là. Faut pas parler. Et elle dit, il se préoccupe de ce que Roman Reigns va leur faire une fois. Hein. Il lui dit, mais attends, moi aussi j'aimais les Ouzo, mais c'est trop tard maintenant. Voilà, il faut les battre et garder le titre. Et c'est ça notre objectif. Et Kevin, il se barre, pas très content. Et Riddle, il fait, écoute, Sami, je comprends ce qui se passe. Je suis passé par ce que t'es en train de passer. Il dit, attends, comment ça, de quoi tu parles ? Et il dit, j'étais dans les RKO, bro, moi, et tout le monde disait que Randy Orton allait me foutre un RKO, mais Orton, il l'a jamais fait parce qu'on était des vrais frangins, des vrais frères, des vrais bros. Et je sais que toi et Kevin, vous êtes des vrais bros, alors t'inquiète pas, les bros, c'est pour la vie. Et Sami dit, ok, merci, mec. Et voilà. Et Matt, l'homme sage, Matt Riddle, l'homme sage. Voilà, l'homme sage. Voilà, depuis qu'il fume plus de shit, il parle de géopolitique et d'amitié, et on retourne dans des humanités vraies, quoi, le monde réel. Et du coup, là, en fait, dit comme ça, on dirait pas, mais on a eu 3 ou 4 petites séquences qui,
Ah
moi,
bah,
m'ont vraiment
vas-y.
fait plaisir, parce qu'on se retrouve vraiment dans les grandes heures de cette belle écriture là qu'on a avec la Bloodline, et puis bah, tous ces liens qu'il y a entre ces mecs qui s'aiment et qui se détestent, et cette quête, mais désespérée, quoi, de Samy qui. Reste le Samy qu'on a connu, qui a un bon fond et qui veut sauver tout le
C'est
monde et
ça,
qui voit le
celui qui nous
bon.
attend fait rêver. Oui.
Ben oui, il est toujours là. Il est
Il est
toujours
toujours
là.
là. Il n'a pas disparu finalement. Sous les cotillons de WrestleMania, il est encore là. Non mais ouais, bah ouais, c'est pareil. Ouais. Je suis comme toi, j'ai beaucoup aimé ce fil rouge. Hein. Je trouvais que c'était super, toutes ces petites scénettes. Jimmy et Sammy, Jay et Sammy, Jimmy et Jay, toutes les combinaisons. La dernière, moi, m'a fait hurler de rire là où tu voyais Kevin Owens qui était au bout de sa vie, coincé avec le mec avec qui t'as pas envie de parler en soirée, mais tu sais qui te parle de trop près et qui te raconte toute sa vie. Mais toi, t'es là, tu te dis putain, venez m'aider, quelqu'un, personne, il y a personne qui a quelque chose d'urgent là pour venir me voir. Et puis quand Samy arrive, il dit mais t'étais où, putain, tu m'as laissé toute la journée avec toute la soirée avec lui. Bon, c'était assez drôle. Mais au-delà du côté humoristique, c'était le côté scénaristique, évidemment, qui était très intéressant. Et enfin, on a envie de dire, enfin, on revient aux sources de ce qui fait le sel de cette histoire. C'est cette lutte fratricide au sein de la Bloodline, le personnage de Sami Zayn, qui est terriblement attachant, parce que il peut pas s'empêcher, on va dire, de toujours se mettre dans des emmerdes et son en fait c'est ça c'est son bon fond et son humanité, sa bonté naturelle qui finalement lui cause des soucis depuis le début, depuis des mois et des mois et des mois. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé empêtré dans les histoires de la Bloodline, à toujours vouloir bien faire, et c'est ce qui lui a aussi permis de s'en sortir, mais ce qui maintenant fait que il n'en est pas complètement sorti et qu'il se retrouve à reproduire un peu les schémas avec Kevin Owens. Et puis les Frangins Rousseau de leur côté, ils sont pas finalement si soudés, enfin tant sortis de leurs histoires que ça. Donc là, c'est vrai que voilà, enfin, tu te dis, putain, tu regardes l'épisode, tu dis, ok, enfin, on reprend le fil et on reprend une vraie direction avec des vraies incertitudes sur les débouchés. Voilà, là on nous remet un peu de suspense, on nous remet de la dramaturgie et du jeu, un petit peu de jeu d'acteur, et donc là on build backlash, là on build match, là c'est sympa, et c'est vrai que là je me dis enfin il se passe quelque chose, quoi. Donc ouais, j'étais très très heureux et soulagé, ouais, de ces petits segments.
Oui, moi, il m'a fait plaisir parce que comme toi, j'étais désespéré depuis WrestleMania de voir cette non-direction que prenait cette storyline, et il se passait plus rien. Alors, je disais, voilà, il faut l'histoire se concentre sur Solo Sikoa. C'était un peu le chapitre Solo Sikoa que je trouvais intéressant pour développer le personnage, mais on oubliait au passage tout le reste de la bande était laissé sur le bord de la route. Il se passait plus rien. Les Canadiens, on les voyait à peine. Les mecs, ils avaient même pas fêté dignement leur prise de titre, qui était devenu un truc, qui était quand même un truc incroyable. T'as l'impression que ça n'avait aucune répercussion. Et là, ça y est, on se rend compte, bah si, que au-delà des ceintures, même si c'est important, il se passe encore des choses. Ces gens continuent à vivre et tout n'est pas étalé, tout n'est pas réglé en fait. Hein, on disait toujours ouais, le problème Kevin Owens, le problème Sami, mais en fait les problèmes ils sont, c'est pas ça. Les
Et
problèmes
non.
c'est toutes ces interactions entre ces gens, c'est comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et effectivement, tu l'as dit, entre les on-dit et les incertitudes et
On se rend
voilà
compte
les.
qu'ils sont tout plein de doutes, tous, en fait.
Ben oui, ils savent
Et
pas où ils sont.
même Jimmy Uso, c'est plus si net que ça. Hein. Il comprend pas pourquoi son frère est pas aligné, pourquoi il n'a pas la même motive. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est pas faux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça pas pour nous et pour le Tribal Chief? Et puis t'as Solo Sikoa derrière qui est là, toujours, il dit rien. Qui d'une certaine manière, je trouve, est assez intrigant. C'est vrai que tu pourrais te dire, en fait, non, mais n'importe quoi, bullshit, c'est juste qu'ils n'ont rien écrit pour lui. Mais je sais pas, il y a un côté aussi assez intrigant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Enfin, tu vois, genre, il se passe tellement de trucs avec ses frères que. Toi, tu penses quoi, quoi? Enfin, il est toujours neutre au milieu, juste à filer des coups de tête et tout. C'est d'une certaine manière, c'est aussi assez perturbant, quoi.
Ouais,
très perturbant. Mais tu as raison, ça redonne de l'intrigue à ce match qui arrive là à Backlash, plus le titre, le match pour le titre à vendredi. C'est en fait un week-end chargé pour la Bloodline et les Canadiens. On
Ah, ça c'est
arrive
sûr.
au match de main event, mon voyage escale, un match Rey Mysterio contre Damien Priest avec Bad Bunny qui était un autre fil rouge puisqu'il était sur le parking et il revenait de la Coachella, du festival de Coachella. Et il arrivait visiblement juste à temps pour cette fin de show. Le match Rey Mysterio, Damien Priest qui va se terminer avec Damien Priest qui chope une chaise et le 619 qui est chargé et alors que Rey monte sur le coin pour faire son splash, et bien Damien Priest il prend la chaise et il la lance en pleine tronche du Mexicain qui s'étale. Et donc le match est arrêté. Victoire de Rey Mysterio par disqualification. Damien Priest qui s'en prend à Rey Mysterio. Il prépare la table, mais la musique de Bad Bunny arrive. Bad Bunny avec son kendo stick, son chapeau de cowboy, habillé comme n'importe quel festivalier. Voilà. Après, il faut payer ses 10 000 euros la place de parking, hein, par contre, la Coachella. Donc. Faut être soit un artiste très riche, soit un influenceur qui veut avoir l'air d'être très riche. Damien Priest l'attend, Bad Bunny débarque, il le tabasse, il le balance à droite à gauche. La foule est en délire, il prend le micro et dit: Ah, Backlash, je vais te botter le cul, Puerto Rico, je vais pas hoster Backlash, je vais t'affronter et te botter l'arrière-train. Le 6 mai, Bad Bunny versus Damien Priest dans un street fight et suivi d'une pléthore de gros mots en espagnol. Match, le show se termine avec Bad Bunny debout avec son gros stick et Damien Priest qui Damien Priest j'adorais parce que il a pas arrêté de l'insulter le titre en trop,
ouais.
Il était pas content et le show se termine comme ça. Donc on nous a booké un match surprenant, hein, Bad Bunny un 1v1, Damien
oui.
Priest versus Bad Bunny, alors qu'on pensait que ça allait être une espèce de LWO versus Judgment Day remixé.
Exactement. Exactement. Ouais,
bah
c'est
ouais,
finalement
il
ça.
S'est il s'est entraîné et on a confiance avec Bad Bunny là.
Ouais, c'est en effet, c'était la surprise de ce segment. C'est un 1v1. Donc ouais, ils ont manifestement très confiance en Bad Bunny pour assurer un contre un contre Damien Priest. Donc ok, soit. Bon, alors après voilà sur ce spot de main event et ce côté voilà ce sorte de coup de théâtre, hein, parce que ça c'est le point d'orgue, on va dire, du segment, c'était censé justement être l'annonce de ce match qui était un secret de Polichinelle, parce que, enfin, en fait, c'est ça qui m'a un peu plus gêné qu'autre chose, parce qu'on a présenté un petit peu toute cette théâtralité pour dire à Bad Bunny, voilà, il annonce qu'il va catcher, alors qu'en fait, on le sait depuis, on s'en doute tellement fort depuis des semaines que c'est vrai que bon, c'est un petit peu dur de vraiment avoir le OMG moment très, très, très. Très très honnête quoi et très très candide mais après c'est plus sur le spot du main event, mais ça c'est voilà, faudrait reprendre ce que j'ai dit il y a 2-3 semaines quand justement il est passé à travers la table. C'est moi j'ai pas de connexion avec Bad Bunny et je pense que de manière générale en Europe on n'en a pas trop, donc c'est difficile d'avoir un enthousiasme débordant pour cette rivalité, dans le sens où voilà, j'ai Bad Bunny, sa musique, son aura, sa célébrité et tout, ça me parle absolument pas. Enfin, c'est vraiment, ça pourrait être un chanteur de variété. C'est pareil. Donc, du coup, mon intérêt forcément est un peu capé quoi là-dessus. Après, il faut reconnaître que la mise en scène, on va dire, et tout ce main event et puis les petites péripéties et tout, c'était bien fichu, c'était bien exécuté. Donc, voilà, c'était pas divertissant. C'était juste que voilà, je sais que c'est pas ça qui va me vendre le pay-per-view quoi.
Non, c'est sûr, mais bon voilà, c'était plutôt bien ficelé quoi, avec le mec qui arrive au dernier moment avec son kendo stick, ça fait soulever la foule, c'est une star, et puis un petit match un petit peu surprise avec une bonne stipu de street fight. Donc voilà, à Puerto Rico, les poubelles vont brûler
oui.
À Puerto Rico. C'est la fin du show, c'est la fin de notre analyse, c'est l'heure du mot de la fin. Giscal, quels sont ton top, ton flop et ta note pour ce Raw incroyable du 24 avril à Chicago qui a vu la renaissance d'un titre mondial.
Et oui, et bah écoute, je vais soigneusement éviter ce sujet clivant et donner mes tops et mes flops à d'autres choses. non, mais je vais donner mon top, écoute, à ce sujet qu'on a traité un peu sur la fin, mais ce fil rouge de la Bloodline et des frères canadiens québécois qui m'a Ah, qui m'a remis du baume au cœur et un sourire en me disant ok, on peut aborder avec plus de confiance et plus de sérénité ce nouveau chapitre de l'histoire, parce que manifestement ils ont retrouvé leur stylo et leur bloc-notes et ils ont repris l'écriture. Donc ça m'a fait très plaisir et j'ai trouvé que au-delà du message que ça envoyait, c'était juste très agréable à suivre et un vrai moment ouais. fort de l'émission, c'était très plaisant. Donc c'est mon top. Et pour le flop, écoute, je m'attardais pas trop longtemps, mais sur un truc qui était un peu un autre fil rouge un peu de l'émission, mais dont on n'a pas trop parlé, c'est cette emphase qui m'a gonflé. J'en ai parlé un peu sur le Discord, sur la draft, et sur toutes les petits commentaires et cette hype de pacotille. J'ai trouvé que vraiment qu'ils essayaient de construire autour de cette draft en disant... tous les segments, on y avait le droit, Kevin Patrick et Corey Graves. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Kevin Patrick est sans doute le pire commentateur que la WWE n'ait jamais eu sur ces 20 dernières années. Et donc, c'est cette sorte de fausse hype, d'éléments de langage forcés tout le temps, à chaque segment, de dire « Oh là là, la draft, regardez leur draft stock, là, comme ils disent aux États-Unis, leur cote un peu pour la draft, quoi, est en train d'augmenter, ou en tout cas, il faut tout faire pour essayer d'augmenter son draft stock, c'est super important, il y a la draft dans une semaine, tout peut arriver, cette victoire va forcément jouer sur la draft. » Mais en fait, on nous explique pas pourquoi c'est important la draft. En fait, c'est ça qui m'agace dans ce truc-là. C'est que on essaye de nous vendre le fait que c'est important pour tout le monde, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que fondamentalement, si on prend le truc froidement, changer de show, ça n'a aucun impact. Enfin, c'est juste qu'au lieu de travailler le lundi, tu vas travailler le vendredi. Mais ça ne change rien. Et puis à la fin. Ils essayent de mimiquer un petit peu les drafts américaines de tous les sports US, parce que toutes les sports US fonctionnent en ligue fermée avec des drafts et donc c'est-à-dire que la draft dans le sport ça a un sens, c'est-à-dire que entre être drafté en dernier ou être drafté en premier, déjà ça joue sur le choix de ton équipe. Ça joue sur ton salaire, ça joue sur tes contrats, sur tes opportunités et tout. Et puis il y a aussi le risque de ne pas être drafté, qui est aussi un risque réel, qui est super. Il y a des places qui sont limitées. Donc il y a des vrais enjeux dans une draft. Mais là, la WWE, on ne sait pas. Enfin, c'est en fait parce que historiquement, la draft, c'est quoi ? C'est juste on prend un sac de noms et on les répartit dans les shows. Mais il n'y a personne qui se fait virer à l'issue de la draft, il n'y a personne qui a des title shots ou d'un seul coup un changement de statut à l'issue de la draft. Donc voilà, moi ça m'a cassé les couilles parce que c'est toujours ce côté très marketing, élément de langage et prendre les gens pour des cons, à nous marteler, ah c'est la draft, c'est la draft, c'est la draft. Ouais mais on s'en fout en fait, parce que tu ne nous as pas expliqué pourquoi c'était important. Donc voilà, c'est mon flop et ça m'a saoulé. Et, ouais. Et d'ailleurs, j'aborde la draft avec plutôt chafouin, parce que je sais pas pourquoi, je sens que ça va me faire chier vendredi, tu vois, au début de la draft.
Oh là là, vous avez rendu notre Jessica le chafouin, c'est pas possible.
Voilà, je suis pas content.
Ah bah voilà, il y avait une belle ceinture et puis maintenant ça va.
Et voilà, il y a une belle ceinture et voilà. Et puis bah écoute, c'est compliqué à noter ce Raw, parce qu'en fait il y a tout un tas de trucs qui m'agacent et en même temps je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que ça n'a été il y a 2-3 semaines avec on est très 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 loin des Raw post-mania, mais en fait je trouve que la qualité du show est vraiment, de mon côté, hein, de ma perception, est complètement bridée par cette ambiance de backlash, de transition qui fait que je n'arrive pas en fait à me détacher de ça pour me dire ok, mais en fait ce que je regarde grosso modo, voilà, dans 2 semaines, c'est fini, quoi. Donc voilà, il y a ce côté-là qui fait que j'ai décidé de mettre un 2,5, parce qu'il y a plein de bons segments, mais je trouve que, ouais, ça, le fil directeur, pour moi, il y est pas, quoi.
Ah ouais, je comprends. Ouais, effectivement, on a l'impression que tout ça sert un petit peu à rien et qu'on a... pas le temps et pas, on n'a pas besoin de s'investir en fait. Si tu t'investis,
ouais,
c'est
ça,
du temps perdu.
Ouais.
Ah, je comprends. Bah, écoute, moi, mon flop, mon top, ça va être le même que toi. Vraiment, ce fil rouge là, j'avais, c'est vraiment ce que j'ai préféré, ce qui m'a vraiment redonné vraiment le sourire. Donc, vraiment, je me suis dit, ah, là, c'est reparti. Cette storyline que j'ai tellement aimée et qui nous a complètement rendu fous jusqu'à WrestleMania, elle reprend de plus belle et ça nous a fait plaisir. Mon flop, allez, moi, alors je vais pas le donner à la ceinture. Je vais pas le donner à la ceinture parce que je pense que en soi c'est une bonne idée cette nouvelle ceinture, mais comme je l'ai dit, comme on en a parlé, c'est à Triple H et sa promo que je la donne. Je donne mon flop qui était vraiment mais complètement à côté de la plaque et qui a pas du tout vendu comme il fallait la renaissance de ce titre qui aurait fallu, pour lequel il aurait fallu attendre bah, la draft pour en faire un événement encore plus majeur. Donc bah, mon flop à Triple H qui moi m'agace en fait, on en a parlé, ce mec est juste omnibulé par les super chiffres, par les records, ouais. Il veut remettre voilà, sa ceinture, il veut juste voilà, avoir des milestones comme ça. Complète, voilà, très marketing, tu l'as dit, hein. Et bah, en attendant, il y a des histoires à faire rouler. Et si vous voulez pas arrêter de rendre chafouin notre Giscal, c'est pas possible. Donc voilà, mon flop à Triple H. Et ma note, je vais être un peu moins sévère que toi, même si je pourrais basculer aussi un peu comme toi par ce côté. Finalement, tout ça sert un petit peu à rien. Malgré tout, on a passé quand même un bon moment. Alors, je vais donner un 3,25. Ouais, un 3,25.
Ah, tout de même.
3,25 à ce show qui était raisonnablement bon, même si effectivement oui. sans gros impact, sans grande importance. Je suis peut-être un petit peu généreux, mais je pense que c'est le retour de la voilà de sa misaine, c'est tout ce petit fil rouge là qui m'a fait plaisir. Et puis avec des vrais tauliers, Cody Rhodes que je trouve voilà, je trouve vraiment bien sa place. Le fameux Cody Rhodes, le loser du le poulet, voilà, au poulet.
Le loser au poulet en plastique.
Voilà, qui aura du mal à s'en mettre, hein, évidemment.
Ah bah, ouais, je pense que
sur des coups certains chroniqueurs douteux de Ketchup. Ketchup, justement, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit sur toutes les plateformes habituelles de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram, Ketchup CDC. Notre lien vers notre Discord est dans la description. Et puis, il va falloir ouvrir les pronos, là, jusqu'à je me rends compte, là, si c'est ce week-end.
C'est ce week-end ? Ah ouais ?
Non, attends.
Mais non, c'est pas ce week-end.
Non, c'est pas ce week-end.
Tu racontes n'importe quoi. Ouais. C'est fatigant. Mais...
Ah, c'est vrai, il est chafouin et énervé, en plus.
Non, c'est bon.
Donc, ne m'écoutez pas, mais écoutez-nous. En vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Merci à toi, Giscal, pour ce petit débat fort sympathique autour de ce nouveau titre de champion du monde. Même si, voilà, on reste cordial et qu'on se passe pas par-dessus la troisième corde, on reste sur le ring, voilà, à débattre.
Important. Mais écoute, merci aussi à toi de m'avoir contredit et débattu, c'était très plaisant, merci.
Oui, on y arrive. Et puis, je vous remercie encore à toutes et à tous, et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de draft. Salut.
Allez, ciao tout le monde. No.